Bonjour Bloc de Fer et merci pour cette émission consacrée à l'urgence qui m'a collé les larmes aux yeux, me remémorant mes 15 ans et la découverte de la série avec ma maman infirmière, où je pouvais enfin partager une passion avec elle. Donc bisous à tous et surtout bisous à ma maman Fabienne.
NFS, chimie, Yono, gaz du sang, groupe RH.
Je me rappelle en vacances, on regardait Urgence, toute la famille était rassemblée devant la petite télé du lieu de vacances. Donc voilà, le micro-trottoir où personne connaît Urgence, où les gens ils disent que c'est comme Grey's Anatomy. Non, c'est pas du tout comme Grey's Anatomy. Et voilà, je voulais mettre les points sur les i et Dr. Green, juste d'évoquer son nom, ça m'émeut encore.
Le personnage magnifique de cette série, c'est Romano, hein, et Benton aussi.
Trouvez-moi Carter, bipez la chire, attention, défibrillation.
Je n'ai quasiment jamais pu suivre un épisode de la série Urgence parce que mon frère était étudiant en médecine à l'époque, j'avais 15 ans, il en avait 18, et qu'à chaque fois qu'il voulait regarder la série avec sa petite copine, qui était aussi en médecine, eh bien il me dégageait. Voilà, merci Frangin, je n'ai jamais pu suivre un de tes épisodes.
Moi, mon épisode culte, c'est la mort de Mark Green. J'en ai pleuré devant ma télé et du coup la chanson qui accompagne cette scène est devenue mythique pour moi.
Je vous appelle pour vous remercier pour cette émission sur la série Urgence que j'ai personnellement adorée quand j'étais ado en fait, jeune adulte, et qui n'est sûrement pas pour rien dans ma carrière puisque je suis devenue médecin en fait, pédiatre comme Dougross. C'est une des seules séries médicales qui est vraiment réaliste et pour moi ça n'a quand même rien à voir avec Dr House ou Grey's Anatomy qui sont pas du tout réalistes.
C'est grâce à Urgence, quand même, que j'ai pu refuser de faire médecine. Parce que je me suis dit, des gens qui pensent qu'au boulot, à qui il arrive des trucs incroyables. Il y en a un qui a un enfant sourd, dont la mère meurt dans un accident de voiture. Il y en a une autre qui attrape le sida, etc. Et là, je me suis dit, non, moi, j'ai pas envie d'avoir une vie comme ça. Je veux un truc beaucoup plus tranquille.
To be or not to be, not to be.
C'est fascinant le rapport que l'on a à la nudité. Sur Facebook, une œuvre d'art, un chouïa dénudé, et c'est l'avertissement direct. Le modérateur est sur ton dos plus vite qu'un moustique un soir de canicule. Une femme expose sa poitrine, telle une fémène, ou à l'aide de son bébé en public, et on ergotera pendant des heures sur la bienséance ou non de son geste. Partout, le moindre téton qui pointe le bout de son nez ou la moindre fesse qui se laisse apercevoir doit être précédé d'un avertissement quand, c'est pas des polémiques, des protestations et des cris d'orfraie de tous les tartuffes qui pullulent dans nos sociétés bien pensantes. Une scène de sexe trop explicite dans un long métrage, c'est une interdiction immédiate aux moins de 16 ans. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Par contre, un homme ou une femme qui, dans un film, vide 252 chargeurs d'armes à feu pour trucider l'équivalent démographique du Pas-de-Calais, le tout dans des geysers d'hémoglobine comme on n'en voit que dans les vidéos L214, alors ça va passer tout seul. Au pire, ça serait une interdiction moins de 12 ans. Les organes à l'air, oui, mais tant qu'ils ne sont pas sexuels. Qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société quand on est moins choqué par des tripes ou des viscères à l'air que par un zizi ? Quant à Tarantino, aurait-il eu le même succès s'il filmait les corps sans lacets avec la même intensité avec laquelle il les montre criblés de balles ? Sûrement que non. N'empêche, même dans un autre genre, eh ben je suis convaincu que Tarantino serait resté Tarantino, avec son talent. Parce qu'avec Tarantino, même si on parle souvent de la forme, il y a quand même un sacré fou.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Vos noms, les voilà. Monsieur Brown. Monsieur White. Monsieur Blonde, Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink.
Pourquoi Monsieur Pink ?
Parce que t'es une pédale, ok ?
Pourquoi on peut pas choisir sa couleur ?
Pas question. Une fois, j'ai essayé et ça a foiré. T'as trois gars et tous les trois, ils veulent s'appeler Monsieur Black. Alors ça gueule, ça chicane et personne veut lâcher. C'est moi le patron et t'es Monsieur Pink. Estime-toi heureux que je t'appelle pas Monsieur Cacadois.
C'est comme pour moi, Monsieur Brown, marron, on trouvait pas que ça a fait un peu chiotte.
Tu pourrais m'appeler Monsieur Black ? J'aime mieux ce nom-là, moi, ça va ? Je peux m'appeler Monsieur Black ?
T'es pas Monsieur Black. J'ai un mec qui bosse ailleurs pour moi que j'appelle Black. T'es Monsieur Pink.
Oh, le nom, c'est pas important.
Ouais, ça te gêne pas, toi ? Tu es Monsieur White. C'est cool, un nom comme ça. Alors si c'est pas important de s'appeler Monsieur Pink, on fait l'échange ?
Oh, oh ! Y a pas d'échange qui tienne, tu piges ? Et où est-ce que tu te crois, à la foire aux occasions, bordel de Dieu ? Alors écoute bien, Monsieur Pink. Il y a deux routes à suivre pour ce job. ou tu suis ma route ou tu tailles de ma route. Alors décide-toi, monsieur Pink.
Quentin Tarantino, c'est l'histoire d'un fan de cinéma de genre qui a fini par réaliser des films qui ont eu plus de reconnaissance que les œuvres qui les ont inspirés. Imitateur éhonté pour certains, génie qui se cache derrière sa cinéphilie pour d'autres, Quentin Tarantino n'a jamais laissé personne indifférent. Il en va de même pour la violence de ses films, gratuite pour certains, graphique et cathartique pour d'autres. Pourtant, ces débats qui ressurgissent à chaque nouvelle sortie de film auraient tendance à faire oublier que Quentin Tarantino, c'est avant tout un sacré conteur d'histoire et un dialoguiste comme il en existe rarement. Et pour vous le prouver, durant cette émission, j'ai à mes côtés Carole Milleliri. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes rédactrice en chef du site de critique ciné Les Écrans Terribles, professeure de lettres modernes et chargée de cours en cinéma à l'université de Nanterre.
Oui.
À nos côtés également, Stéphane Moïsakis.
Enchanté.
Bonjour. Alors, vous êtes critique cinéma, vous avez notamment collaboré au magazine Rokirama, dédié au cinéaste Quentin Tarantino, et on a pu aussi retrouver nombre de vos écrits dans le magazine très connu Mad Movie.
Tout à fait.
Avec nous également, Yannick Rolando, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes essayiste et auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma, dont celui-ci, Quentin Tarantino ou Le Crépuscule de l'Image, paru aux éditions L'Harmattan. Et enfin, avec nous, un revenant, mais quoi, bien vivant quand même, hein, Jean-Baptiste Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe et vidéaste et vous tenez la chaîne YouTube Tales from the Click où vous parlez avec passion des grandes figures du cinéma.
C'est ça, exactement.
Alors ensemble, on va revenir sur le parcours de Quentin Tarantino, d'où lui vient cette passion pour le cinéma de genre, ses influences majeures, son style, ses obsessions. On reviendra sur certains de ses plus grands succès, sur les polémiques qu'ils ont générées. On se demandera si elles étaient fondées et à la veille de la sortie de Il était une fois à Hollywood, on se demandera si Tarantino s'est assagi ou non. Allez, là, on est tranquille, on est bien, c'est l'été, on se prend un Big Kahuna Burger et on écoute tout de suite maintenant Blockbuster.
J'ai quelque chose pour toi. Une montre en or. Tu vois, cette montre appartenait à ton arrière-grand-père qui l'avait achetée avant la guerre de 14. Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur un œil. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autre cachette, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et après 7 ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.
Stéphane Moïsakis, qui est Quentin Tarantino? Il vient d'où?
Il vient d'où? Bah, c'est un cinéaste qui est né à Los Angeles dans les années 60 et qui a grandi avec cette contre-culture en fait américaine. Tu disais tout à l'heure, enfin vous disiez, tu disais tout à l'heure que c'est un amateur de cinéma de genre, c'est un amateur de cinéma tout court en fait. Il se pose pas vraiment de questions de hiérarchie sur ce qu'il aime. C'est évidemment le créneau qu'il a pris, mais en fait il l'aborde de façon complètement différente que tous les films d'exploitation avec lesquels il a grandi. C'est un fan de cinéma de policier italien, de western spaghetti, tout ça. Donc en fait, et tout ça, c'est un énorme mélange dans lequel en fait il a grandi parce que c'est quelqu'un qui a pas vraiment connu son père, donc ça lui a servi de babysitter. Il y a cette scène que tu viens de passer en fait là qui est la scène avec le petit Butch en fait qui regarde la télé. Bah c'est Tarantino ça en fait, c'est un gamin qui a grandi en fait avec la babysitter qui était la télé, le cinéma et qui donc en gros bah s'est plongé dedans.
Il a été élevé par sa mère seule.
Oui, et c'est sa vie en fait. Le cinéma c'est sa vie.
Et Carole Milleliri, est-ce que justement le fait qu'il ait grandi élevé par une femme seule, est-ce que c'est aussi ce qui explique ensuite la complexité des personnages féminins qu'il a développé au cinéma?
Je pense que Tarantino, c'est quelqu'un effectivement qui s'est intéressé au féminin très tôt dans sa vie et qui a grandi dans un univers assez matriarcal. À Los Angeles, il vivait avec sa mère, qui avait aussi des roommates qui étaient des femmes. Et donc cet environnement très féminin a beaucoup fasciné Tarantino. Et également, il a aussi beaucoup fréquenté les hommes que, avec lesquels ses femmes passaient du temps. Et même s'il n'a jamais connu son père, il a eu des référents masculins dans son enfance et dans sa jeunesse, en particulier des hommes noirs. Il a raconté dans un podcast il y a quelques années justement des souvenirs de son enfance avec sa mère et ses colocs et les types qu'elle fréquentait qui l'ont initié à un certain cinéma, un cinéma de la Blaxploitation, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une culture très métissée du fait de cet environnement assez atypique dans lequel il a grandi.
Et Yannick Rolando, est-ce que Quentin Tarantino a fait une école pour réaliser?
Non.
Autodidacte total?
Oui, en quelque sorte, oui, il me semble, dans ses racines, c'est simplement, il a été à un moment donné responsable d'un vidéoclub.
Oui, il tenait un vidéoclub,
en fait,
ouais.
Voilà, et donc comment dire, c'est assez classique un peu à cette époque d'avoir une cinéphagie plutôt qu'une cinéphilie. C'est-à-dire que c'est très patchwork, c'est très post-moderne, hein, pour le coup. Et donc, il prend tout ce qui vient, que ce soit bon ou pas. Je pense que si ça lui fait plaisir, donc ça fonctionne. Et c'est là qu'il y a un problème, à mon avis.
Et Jean-Baptiste Toussaint, là on est en train de dire que Tarantino a fait sa culture sur un assemblage comme ça d'influences qui viennent d'un peu partout, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi notamment dans la musique rap, avec cette idée de faire un morceau à base de samples. Et est-ce que Tarantino, c'est pas l'idée aussi de faire du cinéma samplé?
Complètement, parce que quand on reprend, ce matin je me suis amusé à lister toute sa filmographie, et en fait quand on observe sa filmographie, on se rend compte que chaque film est inspiré d'un autre film ou d'une autre ambiance. Par exemple, Reservoir Dogs s'est inspiré très clairement des Pirates du métro de Joseph Sargent, Pulp Fiction, des Trois visages de la peur de Mario Bava, Kill Bill, bon, tous les films de Kung Fu qu'il a vu, les films japonais, etc. Et ça vaut pour tous ses films. Même Inglourious Basterds, il y a une vraie inspiration des 12 salopards, tout ça. Donc il s'est inspiré d'énormément de films, mais malgré tout, il a quand même sa patte. C'est ce que je trouve fort dans le cinéma de Tarantino.
Alors dans les Tarantino, la musique est importante, mais la radio aussi, à la radio aussi. Donc on va écouter Santa Esmeralda, bien évidemment, qui nous interprète Please Don't Let Me Be Misunderstood, et on se retrouve ensuite. J'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par la divine Céline Hila, et elle est un petit peu comme Uma Thurman, hein, faut pas trop l'embêter parce que sinon elle vous coupe la tête. À la programmation musicale, Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot, ainsi qu'Aurore Mansi, font préparer cette émission. En plus, elles l'ont fait, mais durement. Et elles aussi, faut pas les embêter, c'est un peu les Black Mamba de l'équipe. Et à la technique aujourd'hui, Charles Pélabo. C'était Santa Esmeralda dans Blockbuster sur France Inter.
Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Nous sommes toujours avec Carole Milleliri, Stéphane Moïsakis, Yannick Rolando et Jean-Baptiste Toussaint pour parler de Quentin Tarantino. Et durant la chanson, il y a un débat autour de l'appartenance ou non de Quentin Tarantino au cinéma de genre, son goût pour le cinéma de genre. Et donc, je vais vous reposer la question à l'antenne cette fois-ci. Pourquoi Quentin Tarantino s'est porté vers le cinéma de genre alors que assez souvent il se réfère à des influences plus classiques? Alors il y a eu un débat entre Yannick Rolando et Stéphane Moïsakis disant bah non il est pas aussi classique que ça.
Alors moi je sais que la façon dont moi je le prends en compte Tarantino, c'est que c'est quelqu'un qui aime le cinéma dans son ensemble et qui se pose la question en fait tout simplement de la fiction. La fiction, c'est quelque chose d'extrêmement important chez lui. C'est pour ça qu'il arrive à en jouer littéralement dans un film comme Inglourious Basterds, où ceux qui ont vu le film savent à la fin en fait qu'il change le cours de l'histoire à travers la fiction, en créant des personnages de fiction qu'il intègre dans l'histoire avec
H. Il semblerait qu'il y ait une réalité parallèle qui soit purement cinématographique, où il peut se passer des choses qui ne peuvent se passer qu'au cinéma.
Et ça, il le fait avec un quatrième ou cinquième film en fait. C'est pas avec ça qu'il a démarré, avec un cinéma qui se veut plus réaliste, entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, un film comme Reservoir Dogs, c'était une manière de démontrer la violence en fait, qui était il savait qu'à l'époque, dans les années 80, dans les films d'action, dans les policiers, en fait ça passait très très vite. Et là en fait, il voulait montrer par exemple l'effet d'une balle dans le ventre d'une victime en fait, et le laisser courir pendant tout le film et dire voilà, je veux montrer ça au cinéma. Et ça, c'est clairement une influence entre guillemets du cinéma du réel, ce qu'on appelle le cinéma du réel, de la nouvelle vague et ce genre de choses en fait, qui est là. Donc il a une manière d'aborder le cinéma de genre à travers ce prisme là mais il est tout à fait aussi capable de s'en détacher. C'est-à-dire que lui-même, en fait, quand il a fait Kill Bill, il s'est posé la question de s'il était vraiment capable de faire une scène d'action. Et il l'a dit, hein, ouvertement. Il a dit, ça a été mon test, ma limite, en fait, pour savoir si j'étais un cinéaste de cinéma d'action. Parce qu'il considère que les cinéastes de cinéma d'action sont finalement, en fait, les meilleurs cinéastes. Parce que s'il était capable de faire une scène d'action, à proprement parler, une vraie scène d'action, hein, c'est-à-dire avec le rythme, etc., etc., selon lui, t'es capable de faire le reste, en fait.
Et Carole Milleliri, vous m'avez dit que le goût de Quentin Tarantino pour l'hétéroclisme était vraiment ce qu'on ressentait le plus dans son cinéma.
Oui, pour moi, c'est un cinéma vraiment hétéroclite, parce que c'est à la fois quelqu'un qui a une culture cinématographique très cinéphile, avec des cinéastes canoniques qui vont revenir et dont il s'inspire, et en même temps quelqu'un qui s'intéresse aussi à des cinématographies considérées à une époque comme des cinématographies très populaires, voire sous-populaires, voire presque honteuses, des films de série B, de série Z, des films de blaxploitation, des choses qui sont complètement enterrées et oui, presque disparues films, dans la mémoire. Et il s'intéresse à plein de cinémas différents, et c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux. Alors après, ça fonctionne plus ou moins selon les films, il me semble, mais il y a quelque chose de l'ordre de la réunion dans le cinéma Tarantino, où on n'est pas dans une dichotomie, dans une séparation entre un cinéma noble et un cinéma honteux dont on n'oserait pas parler, etc. Et c'est quelqu'un qui peut donner l'impression de vouloir flatter un peu ses spectateurs en disant « Voilà, tu reconnais mes citations, tu vois mes références. » Et en même temps, il y a certains films où les références qui sont les siennes sont des références un peu obscures et qui ne sont maîtrisées, surtout dans les années 90 ou dans ses premiers films, que par des cinéphiles très pointus, des cinéphiles qui vont s'intéresser à des cinématographies de niche, pas le spectateur lambda. Mais justement, il peut créer aussi l'intérêt, et je trouve que surtout sur les jeunes générations, quand on parle aujourd'hui avec des ados ou des étudiants du cinéma de Tarantino, là je prends ma casquette de prof et de l'expérience que je peux avoir avec mes élèves.
C'est bien vu, si, c'est bien vu.
Voilà, c'est C'est leur culture, c'est d'aller chercher l'info en permanence, en fait, avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Et s'il y a quelque chose qui leur fait tilt dans un film, bah, ils vont aller se renseigner, trouver l'info et aller trouver les références. Et il y a cette espèce de jeu permanent avec le spectateur, plus que de la flatterie, je trouve, du spectateur, d'un jeu, de te dire, bah, peut-être qu'en fait, il y a un easter egg dans chaque image, il y a un code, et à toi d'aller chercher, d'aller le trouver si t'en as envie. Mais le film peut-être déguster sans ça, et après on peut aussi s'emparer de plein de cinématographies différentes grâce à Tarantino.
Yannick Rolando, vous n'avez pas l'air d'accord là-dessus.
Je trouve que c'est en fait, il faudrait un peu déployer tout, enfin son apparition dans les années, enfin ce qu'il a vu dans les années, 70, 80, le côté patchwork qui est très à la mode. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est obscur, qui était extrêmement valorisé. Donc à partir de ce moment-là, je me dis bon. Après le problème, c'est ce qu'il en fait et comment.
Vous, ça vous gêne en fait ce côté hétéroclite, ce mélange de genres.
Non, c'est pas tellement le mélange de genres en soi. Les artistes ont toujours fait ça. C'est ce qu'on appelle l'intertexte. Flaubert reprend à droite à gauche. Après, c'est ce qu'il en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est ce qui va en ressortir. Vous voyez, je citais tout à l'heure Kubrick, qui fait absolument l'inverse. Qui est pour moi un cinéaste phare. Quand on parle encore de 2001 maintenant.
Oui, oui. Enfin, 2019, dire que Kubrick est un cinéaste phare. Oui, je pense oui, que mais ça me gêne... personne va vous
non,
contredire.
Non, mais on peut. Moi, ça me gêne pas qu'on dise que c'est pas ça. C'est oui. Le problème, c'est que ça tient. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est absolument la démarche inverse. C'est-à-dire que lui, il dit, bon, le cinéma de genre, ouais, il y a des choses intéressantes toujours. Hein. On pourrait considérer Garpo comme pas de la grande littérature, sauf que, bon, effectivement, Baudelaire a mis... il l'a consacré. Sauf qu'il y a toujours des choses intéressantes dans la manière dont les cinéastes, les écrivains reprennent le réel, le retriturent et en font quelque chose de nouveau. Mais il y a toujours de la connaissance dedans. Et Kubrick faisait absolument l'inverse. Je finis juste. Il disait, bon, voilà, le cinéma de genre, il y a des choses intéressantes. Mais moi, je vais vous prouver qu'au niveau de la mise en scène et de ce que sont les œuvres, je vais l'accomplir jusqu'au bout. Et il fait 2001.
Après, tous les films de Kubrick sont des films de genre. Hein.
Oui,
tous.
Sauf qu'il le porte à un tel niveau qui fait que les autres sont recalés en série Z.
Oui, alors peut-être pas non plus, faut pas exagérer. Mais
quand même.
Oui, 2001, vous voyez, le jour de la
terre. Après l'ultime razzia, moi je peux regarder Hit, il n'y a pas de problème pour voir un film de braquage.
Oui, mais c'est le même thème qu'il fait depuis le début.
Je rappelle que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Quentin Tarantino. Jean-Baptiste Toussaint, le premier film de Quentin Tarantino, c'est Réservoir Dogs. Donc c'est quoi la genèse de ce film?
Oui, parce qu'on a souvent parlé du film en lui-même, mais peu de sa création. Et sa création, elle est très intéressante parce que il sortait tout juste de son job chez Vidéo Archive, parce que je crois qu'il a bossé là-bas de 83 à 89, si je dis pas de bêtises, pendant 6 ans. Et d'ailleurs, à la suite de ce boulot-là, il faisait quelque chose de très drôle, c'est-à-dire qu'il se présentait des castings pour être acteur, et en fait, il écrivait des noms de faux films dans lesquels il avait joué. Je trouve ça assez drôle. Et
notamment un faux Godard.
Oui, c'est
un Kingling de Godard qui n'a jamais été tourné.
Si.
Bah, le Kingling,
film.
Mais personne,
à l'époque, et puis surtout à Hollywood, personne ne savait que.
Là, il me semble que le King Lear avait été produit par.
Golan Globus.
Ça, c'est drôle.
La Canon.
Et la Canon, c'est marrant. Ça va pas ensemble normalement, mais c'est drôle. Et en gros, il a écrit le scénario en quelques semaines seulement, très rapidement. Et là où c'est impressionnant, c'est que grâce à un pote, il a pu faire parvenir le scénario à Harvey Keitel. Et Harvey Keitel a dit, Amine, c'est bon, je joue dedans, c'est trop bien. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que il a participé aux ateliers de Sundance en 92 et il a répété quelques scènes devant Terry Gilliam. Et Terry Gilliam était complètement impressionné. Donc déjà, quand Keitel et Terry Gilliam, dès le départ, vous disent ce que tu fais, c'est très très bon, t'es sur des bons rails. Ça commence très bien. Et puis après, voilà, le film a été un succès. Il a été sélectionneur hors compétition à Cannes, si je dis pas de bêtises. Puis après, ça a commencé de là. On peut pas commencer mieux, en fait, sa carrière qu'avec Réservoir d'Eau.
On lui a très vite reproché beaucoup de similitudes avec City on Fire de Ringo Lam.
Oui, c'est un des trucs qui est ressorti, mais ça fait partie de toute l'aura, en fait, de Tarantino à ses débuts. C'est-à-dire que, en gros, c'était un cinéaste copieur, c'est quelqu'un qui utilisait le cinéma fondamentalement, en fait, pour vendre son propre cinéma à lui, en fait. C'est-à-dire, et je pense qu'il n'y a pas de malice, en fait, là-dedans. Il n'y a pas de recul. C'est hyper personnel. Il l'aborde comme ça. Et en fait, bon, il suffit de avoir vu City on Fire et Reservoir Dogs pour voir que certes, il y a deux, trois scènes similaires.
une trame vaguement propice. Enfin voilà, mais après le truc c'est que les deux films ils ont absolument rien à voir. Le problème de Tarantino, le truc qui lui a posé problème vis-à-vis de ça, c'est surtout qu'il l'a pas dit en fait à l'époque. Et c'est à partir de ce film qu'il a décidé vraiment de citer absolument toutes ses références et d'expliquer. Voilà, moi ma théorie en fait sur son fonctionnement, il l'a pas forcément dit comme ça, mais c'est un gros fan de Sergio Leone. Et ma théorie sur son fonctionnement vis-à-vis de Reservoir Dogs et City on Fire, c'est qu'il a fait à peu près ce que Leone a fait avec Pour une poignée de dollars quand il a repris Yojimbo en fait de Kurosawa. C'est-à-dire il a réinterprété le film, il l'a occidentalisé, et voilà, enfin le reste c'est son premier film.
Et puis au-delà des hommages et ou du plagiat ou des inspirations, il y a cet art consommé du dialogue qu'on retrouve quand même énormément dans son cinéma. Et Carole Milleri, il y a un art du dialogue, des échanges à la Tarantino.
Oui, il y a un art spécifique du dialogue. C'est vrai que c'est un amoureux des mots, et je crois que c'est peut-être pour ça aussi qu'il fascine beaucoup les Français qui sont avides de ce genre de cinéma-là. Après, selon les films, l'usage de la parole est extrêmement différent. Par exemple, je trouve ça très intéressant ce qu'il va faire dans Kill Bill autour du personnage de Matterman, qui est en fait qui parle extrêmement peu dans le premier et le deuxième volet, et qui va renouer vraiment avec la parole, avec la capacité à exprimer ses émotions, à exprimer ses frustrations au moment où elle va arriver au bout de sa quête et au bout de sa vengeance. Donc il y a un jeu sur cette dimension-là, en fait, un personnage qui est un personnage purement d'action, purement physique, et qui va renouer avec la langue au moment où elle renoue avec son identité, alors que, par exemple, le personnage de Jackie Brown est un personnage qui brille par sa maîtrise du langage et sa maîtrise des émotions et par son self-control. Un personnage de femme hyper badass par son intellectualité, son intelligence, et pas du tout par un rapport grotesque à l'action où son corps serait en jeu. Et c'est en ça que je trouve que cette héroïne-là est assez fascinante. Et les derniers films de Tarantino travaillent beaucoup aussi le rapport à la langue, hein, que ce soit l'importance des échanges dans Django Unchained, qui est un film avec lequel je précise j'ai un rapport assez partagé. Je n'arrive pas vraiment encore à savoir où je me situe par rapport à ce film. Je trouve que c'est un film très complexe et très
casse-gueule. Vous avez encore une demi-heure avant la fin de l'émission pour le trouver.
Ok, donc, pas de pression du tout.
Mais pas
bien.
De pression. Hein, voilà.
Mais c'est vrai que dans Django, par exemple, ce que je trouve assez passionnant, c'est de voir que le moment où le personnage semble désespéré, semble au bout de son parcours, et on se dit, bon là, c'est fini pour lui, c'est cuit pour lui, alors qu'on pensait qu'il avait réussi à se débarrasser de ses oppresseurs, c'est un moment où, par le langage, par sa capacité à maîtriser la langue de façon élégante et instruite, il arrive à retourner une situation à son avantage et à récupérer des armes pour juste avant la scène finale. Et dans The Hateful Eight, les huit salopards, évidemment, on est dans un film extrêmement verbeux qui, pour le coup, moi, est un film avec lequel j'ai beaucoup plus de mal. Et là où, pour le coup, Tarantino va au bout de sa démarche. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cinéma de la malice. Tarantino nous montre ses effets tout le temps, de la façon qu'il nous montre ses références. Il ne cherche pas à nous duper. Donc la performativité de la langue, il l'assume complètement, et la langue est un spectacle en soi. Pour lui.
La langue est un spectacle en soi. Et justement, on va voir si votre langue est un spectacle en soi. Pas que la vôtre, hein, à vous tous autour de la table. Parce que je suis entouré par des experts, mais il y a une question qu'on se pose tous les jours dans cette émission, c'est l'êtes-vous vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Quentin Tarantino. Saurez-vous y répondre ? Tarantino a réussi à relancer la carrière de John Travolta, de Kurt Russell, de Michael Keaton. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose pour Manuel Valls ?
Personne n'est convaincu sur le plateau, apparemment.
Ouais.
Alors, là, c'est une cause perdue, en fait. Hein.
Il y a un truc avec sa chemise trempée.
Peut-être.
Il y a un truc un peu de cinématographique. Là,
oui.
Ou alors qu'il l'élimine carrément.
Puis on parlait de gens de talent, non voilà.
On peut l'éliminer, au moins.
On peut faire ça. Question suivante. Un film de Tarantino où il n'y aurait ni flingue, ni mort, ni sang, et où les gens parlent sans arrêt. Ça existe déjà, non? Ça s'appelle un film de Woody Allen, non?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait?
Non.
C'est quoi la différence?
Samuel
L. Jackson. On rajoute Samuel L. Jackson dans un film de Woody Allen, c'est un film de Tarantino.
Ah. Bon.
Non?
Non, mais je sais pas. Non, moi, je pense que ces deux cinéastes sont vraiment radicalement différents. En fait, ils confondent dans leur approche. Ouais. Woody Allen a une approche énormément théâtrale. Tarantino, c'est très cinématographique.
Moi, ce que j'adore dans ce moment-là, c'est que les gens font vraiment des réponses intelligentes à des questions complètement cons.
Oui, bon, bah, certes, on essaye. Hein.
Dernière question. Tarantino a réussi à réhabiliter le film de Kung Fu, à réhabiliter les films de la Black Exploitation, à réhabiliter les westerns de spaghetti. Pensez-vous qu'il a les épaules pour réhabiliter la soupe aux choux?
Il n'y a pas besoin. C'est un classique.
Ah, on touche pas à la soupe aux choux.
Exactement.
On est voilà. D'accord. Mais ouais. Oui. Ben oui. Mais moi aussi, je trouve que il y a. D'ailleurs, j'aimerais. Est-ce que quelqu'un connaît la genèse de la soupe aux choux? Parce que.
Ah, c'est tiré d'un bouquin.
Ouais, c'est un livre.
C'est un livre à la base.
Mais quand même, réussir à vendre le scénario de deux paysans qui pètent et qui attirent un extraterrestre.
Ça marche très bien en littérature, je pense.
J'arrive pas à avoir un prêt bancaire et ils
mais
ont
ça a été fait en film.
Et là, c'est. Enfin bref, voilà, c'était le questionnaire expert complètement débile. Allez, tout de suite maintenant, on écoute l'épée, The Liminianas et Emmanuel Seigné qui nous chante Dreams. C'était l'épée avec Dreams.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité.
C'était un extrait de Kill Bill, le monologue, le fameux monologue de David Carradine, incarnant Bill justement, à la fin du film. Donc nous sommes toujours ensemble pour évoquer Quentin Tarantino. Et la prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à tous les personnages créés par Quentin Tarantino. Moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est que on sait très peu de choses sur eux. Ils parlent énormément, mais il n'y a pas ce canevas habituel qu'on trouve dans plein de films où on voit les personnages venir de tel endroit, de tel milieu. En fait, on les devine presque plus par leur dialogue ou par ce qu'ils ne disent pas que par ce qu'ils disent véritablement. Stéphane Moïsakis.
Alors il faut savoir un truc avec Tarantino, c'est qu'il écrit d'abord en fait ses scénarios sous forme de roman en fait. Hein. Donc c'est écrit comme un roman, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des descriptifs dont on n'a pas besoin en fait finalement au cinéma. Donc il les adapte ensuite en scénario. Et après moi je suis pas tout à fait d'accord en fait, mais sur cette logique-là, parce que je pense que tout est dedans en fait, tout est déjà là en fait. C'est des personnages. Au cinéma il faut comprendre un truc, c'est que quand on raconte quelque chose à des spectateurs, en général le mensonge n'existe pas. C'est-à-dire que, en fait, il faut définir les personnages comme des menteurs pour qu'ils disent, pour qu'on comprenne que ce sont des menteurs dans le récit. Et donc, en fait, Tarantino, il joue avec ça énormément parce que il aime que ses personnages disent finalement tout le temps la vérité. Le dialogue qu'on vient de passer, c'est la perception du personnage de Bill en fait sur le comic book, quoi, sur la mythologie. Et en même temps, en fait, ce que ça crée vis-à-vis de ça, c'est ça crée en fait une vraie. Enfin, c'est un personnage de père qui a été un père absent, qui a été voilà. Il parle de ce personnage-là aussi en fait, parce que Superman c'est un personnage qui a perdu son père, enfin qui est un père de substitution. Donc il y a tout ce truc-là en fait. Et Tarantino il parle de lui à travers ça. Donc voilà, là je fais une petite digression, mais c'est pour dire qu'en gros chaque personnage finalement on en sait assez parce que c'est des archétypes qu'il va humaniser et construire au fur et à mesure dans son propre récit à lui. Par exemple la mariée, on sait s'appelle la mariée, donc on sait qu'elle était mariée, on sait qu'elle avait un enfant, on sait qu'elle l'a perdu. Et en fait tout ça suffit pour motiver finalement en fait la façon dont le récit va avancer et la question de la vengeance en fait. Donc oui, il y a de ça, mais en fait toutes les lignes finalement en fait sont là puisqu'ils finissent par se dévoiler comme lui-même se dévoile en fait Tarantino la plupart du temps quand il parle en interview. Sa façon en fait de parler de son propre cinéma, sa façon de dire moi mon cinéma il vient de là, j'ai fait ça, ça c'est ma référence, ça c'est mon truc et j'ai voulu construire ça et je parle de ça. Ben en fait il fonctionne exactement comme ses personnages, c'est-à-dire il dit la vérité quoi. Voilà.
D'accord, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, pour le personnage de Marcellus Wallace, ou pour même le personnage de la mariée, on a toujours l'impression qu'il s'est passé plus de choses avant que ce qu'on en voit.
Parce que ça existe. Parce que ça existe dans la Bible, en fait, de Tarantino. C'est-à-dire, ça existe. Il y a quelque chose. Par exemple, les frères Vega, en fait, il y a le personnage Madsen et Travolta, c'est deux personnages, il y en a un dans Reservoir Dogs, il y en a un dans Pulp Fiction, c'est censé être deux frères, mais on le sait pas forcément, on sait juste qu'ils partagent le même nom, et lui voulait faire un film sur les deux frangins, avec les deux acteurs, et en fait, en gros, si tu veux, c'est parce qu'il avait écrit déjà tout un tas de background, en fait, qui lui sert et qui infuse, en fait, ses personnages, et j'imagine les acteurs quand il les dirige, quoi.
Alors, il y a une sorte de rituel désormais à chaque sortie d'un Tarantino, c'est l'accueil de la critique française, alors c'est tout un poème. C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime
pas, j'aime pas, j'aime pas. Tout ça étant même une galerie de guignolades pathétiques, des bouffées de violence que moi je trouve assez insupportables et assez injustifiées.
Et je trouve ce film, au bout du compte, d'une assez grande bêtise dans ce qu'il raconte.
Et le problème de Tarantino, c'est qu'il met en scène des idées les unes après les autres, mais rien sur la durée, rien, il n'y a aucune ampleur, il n'y a aucune idée perspective.
Des mauvaises idées mal interprétées, ça passe, mais quand elles sont parfaitement jouées...
C'est-à-dire que pendant deux minutes, il n'y a pas forcément des Chinois qui volent à coups de sabre. Quoi. Voilà, c'est le summum.
On sent un début de pensée.
Voilà, on sent un début d'écriture.
C'est d'un cynisme. D'une longueur, d'un ennui.
Non, parce que j'ai pensé à très peu de choses pendant le film, hein. J'avais le cerveau vide.
C'est plein de clichés, d'invraisemblances, de parodies, de western spaghetti, de longueurs interminables. Bref, comme titrait Libé, c'est un Tarantino un peu tiré par les cheveux.
Ça ne m'intéresse pas du tout.
On se retrouve avec un film bavard. Au meilleur, à mon avis, des moments, on a l'impression de voir un Hercule Poirot de la BBC avec David Suchet.
La seule explication pourquoi Quentin Tarantino a passé 5 ans de sa vie à faire ça, pourquoi Uma Thurman a accepté de subir tout ce qu'elle subit dans le film, quand même, elle est enterrée vivante, enfin bon, c'est monstrueux. Je me dis qu'il y a un truc SM entre eux.
Il y a un gamin brillant à qui on a dit qu'il était brillant, qui du coup se croit formidable, intelligent, un petit génie du cinéma, et qui se regarde filmer. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Je trouve que c'est un film dont il faudrait même pas parler.
Tout dans la mesure, Jean-Baptiste Toussaint, ça vous évoque quoi toutes ces critiques de, voilà, du cinéma français?
Voilà, c'était en compilation, ça donnait le sentiment que c'était un peu une mascarade, ce qu'on écoutait. Oui, c'est un cinéaste qui divise. D'ailleurs, j'ai encore en mémoire l'interview qu'avait fait Cohen avec Godard, où Godard l'avait insulté de faquin. Et oui, je pense qu'en fait, peut-être que ça vient du fait que, comme on le disait en début d'émission, il s'est inspiré d'énormément de films. Vous en parliez aussi tout à l'heure, le fait qu'il soit peut-être perçu pas vraiment comme un cinéaste classique. J'ai le sentiment que ça dérange. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il a une courte filmographie, mais finalement, quand on regarde tous ses films, ils ont été couronnés de succès à peu près tous. Il reste dans la mémoire collective, donc... Pour moi, il fait partie des grands cinéastes. Après, je peux comprendre qu'il divise parce qu'il a un cinéma rempli de violence, avec parfois des polémiques qu'on a pu le voir avec Django Unchained. Je sais pas, je suis pas vraiment d'accord avec ce que j'ai entendu juste avant.
Yannick Rolando ?
Oui, alors, c'est étrange parce que quand j'ai écrit mon livre sur Tarantino, j'ai entendu l'inverse, que j'ai pris Allociné, j'ai vu que c'était des critiques dithyrambiques pratiquement à 90%. Je me suis dit, j'étais un peu étonné. En fait, bon, dans ce qu'ils disent, c'est assez vague. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'aime un cinéaste ou je l'aime pas, j'essaie de comprendre pourquoi je l'aime ou je l'aime pas. Et donc, à un moment donné, il y a un bon dire, j'aime pas, c'est chiant, c'est nul, c'est pas très intéressant. À mon avis, les critiques qu'on entendait, c'est ça va à l'encontre de la manière dont le spectateur a un rapport au cinéma, qui était lié avant au réel, même si c'est bien sûr une fiction. Alors que là, Tarantino, il éclate le hors-champ, il montre tout, c'est quand même très gore, et il le justifie comme un spectacle. Et là, il y a, à mon avis, un problème. C'est-à-dire que il met le second degré au premier degré, alors que le second degré, à un moment, par exemple, dans le grand sommeil de Work Hawks avec Lorraine Bacall Humphrey Bogart. Tout est imaginé et on peut ne pas le voir. C'est ça le vrai second degré. Là, il le met au premier degré comme une vitrine de pub. C'est ce que fait la pub, d'ailleurs. Et il se sert de ça pour après justifier la vengeance en disant, vous voyez, c'est cool, la violence. Et les victimes de l'histoire peuvent se venger et c'est fun. Là, il y a, à mon avis, un vrai problème. Parce qu'aucun cinéaste avant ne pouvait aller jusque-là. Il y avait une retenue par rapport à la violence, à ne pas justifier. Alors, je ne parle pas de plein de films, hein, je parle quand même des grands metteurs en scène, Kubrick ne justifie jamais, même dans Orange Mécanique, il ne justifie jamais la violence d'Alex. Jamais. D'ailleurs, ce n'est pas un film sur la violence.
Carole Emile-Léry, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de la violence comme quelque chose de gratuit ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus complexe et je ne dis pas ça pour énoncer un lieu commun parce que ça pourrait être une facilité pour botter en touche. Effectivement, le cinéma de Tarantino est extrêmement violent, comme plein d'autres cinématographies. Mais je trouve que Tarantino se pose des questions justement quant à la représentation de la violence. C'est-à-dire, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas ? Par exemple, une femme s'est fait violer de façon répétée alors qu'elle était dans le coma dans Kill Bill. Kido, on ne montre pas ce moment-là. On a l'impression au moment d'une scène qu'on va à ce moment-là, on ne le montre pas. Il y a un choix que beaucoup de réalisateurs masculins de cette période avant n'ont pas fait. On va montrer la violence de façon très grand-guignolesque, ce qui crée à la fois une horreur et en même temps une distance par rapport à cette violence, une déréalisation. Alors, déréaliser la violence, peut-être que ça peut être dangereux. En même temps, on croit en l'intelligence du spectateur. Je pense qu'il y a beaucoup d'images de violence auxquelles on est confronté au quotidien et depuis extrêmement longtemps, qui sont bien plus intenses que les images du cinéma de Tarantino. Et Tarantino nous rappelle tout le temps que c'est du cinéma et qu'on est dans l'artifice. Je ne dis pas que je cautionne. Ah, c'est génial, j'ai envie de voir plus de sang et plus de gens mutilés.
Mais il y a un jeu.
Il y a un jeu de l'ellipse à plein de moments sur plein de films, que ce soit Boulevard de la Mort, que ce soit Kill Bill, que ce soit Django, où on choisit ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. En tout cas, peut-être que Tarantino ne propose pas les bonnes solutions ou les solutions qui vont vous satisfaire en tant que spectateur, en tant que critique, etc. Quel que soit le rapport que vous ayez aussi auditeur au cinéma de Tarantino. Mais en tout cas, Tarantino se pose des questions et j'ai la sensation qu'il s'en pose beaucoup plus que bien d'autres cinéastes. Ça se sent aussi bien dans ses films que dans ses interviews, ses conférences de presse et les Q&A.
Et il se pose beaucoup plus de questions même que les cinéastes de... Parce qu'il faut rappeler d'où ça vient, le cinéma de Tarantino. C'est le cinéma d'exploitation. Et le cinéma d'exploitation, c'était ça. C'est-à-dire que clairement, c'était des séries B, des séries Z. Alors après, on n'apprécie pas, mais en fait, il y a une raison pour laquelle on allait les voir. Hein. C'était, il y a de la violence, il y a du sexe, etc. Et le truc, c'est que oui, effectivement, lui se pose des questions sur la façon dont ça a été mis en scène à l'époque. Donc c'est pour ça que même, en fait, tout le rapport à Kubrick et le fait qu'il se pose pas de questions sur les films d'avant et ce qu'il fait après, c'est faux aussi. Moi, pour moi, enfin, mon approche, c'est que Tarantino, il le voit ça, mais il aime ça par contre. Et ça, en fait, c'est peut-être ce qu'on leur reproche en général. Sauf que, en fait, moi, je pense qu'il y a, enfin, il y a pas de, comment dire, de problématique vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que ça reste de la fiction.
Mais peu importe.
Donc, si, on a des règles quand même quand on envoie pas des gamins de 8 ans pour aller voir ces films-là.
Non,
donc
mais
c'est, on est quand même des adultes.
Il y a ce qu'on appelle le hors-champ. Je veux dire, le problème, oui, enfin, par exemple,
mais ça, c'est un point de vue.
Il en joue aussi.
En plus, c'est vrai.
Le problème dans son film, c'est Inglourious Basterds. Prendre des juifs qui tuent des nazis, des méchants. Parce qu'en plus, c'est assez facile de montrer les nazis méchants et les juifs bons.
Parce que c'est difficile de leur donner un autre rôle. Hein.
Non, mais je veux dire, dans
c'est vrai
un
qu'on
film...
a beaucoup exagéré quand même. Hein,
dans un film qui revient ça, à la fin, moi, il y a un problème que je me pose de manière symbolique, parce qu'il est bien sûr qu'il n'est pas bête. Mais à la fin, c'est un camp d'extermination. On peut tuer à la mitraillette, retuer Hitler.
Oui, mais ça, c'est sortir du contexte, de l'histoire,
C'est ce qu'il y a.
Sauf qu'il y a une fiction et c'est un film qui dure 2 heures et demie.
Oui, mais à un moment donné, moi, je suis contre tous les camps d'extermination.
Mais oui, mais c'est pas vraiment un camp d'extermination, c'est au cinéma.
Mais il a
exterminé personne, Tarantino. Faut le préciser quand même.
Je parle au niveau symbolique de ce qui est dit. À un moment donné, à la fin, quand même, il légitime le camp d'extermination où on peut tuer les nazis. D'ailleurs,
il n'y a pas de d'extermination dans le film, mais c'est pas grave.
Je pense qu'on touche du doigt le moment où le cinéma ou n'importe quelle forme de
cellulose qui remplace le Zyklon B, c'est pas un hasard quand même dans le film.
Je pense qu'on est vraiment sur une forme de catharsis.
C'est un cinéaste qui aime le cinéma.
Mais oui, mais
c'est le cinéma. Le cinéma est plus fort que le reste.
Et si on écoutait une chanson? Parce que les éditeurs, à mon avis, devaient dire « j'aimerais bien faire quelque chose de ma vie en même temps ». Donc là, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais avant cela, on va écouter Black Pumas avec Color. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I see leaves back down. Brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see 'em black no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. Sound like
Colors par Black Pumas. Et maintenant, on va jouer.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Damien au téléphone. Bonjour Damien.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va et vous?
Oui, très très bien. Alors, vous êtes fan de Tarantino?
Oui.
Comment vous l'avez découvert? Expliquez-moi.
Alors, je l'ai découvert avec Reservoir Dogs quand c'est passé sur Canal Plus pour la première fois. Donc, j'ai vu le film, je devais avoir 15-16 ans, j'ai tombé là-dessus et puis je suis tombé fan absolu et je crois que un ou deux ans après, Pulp Fiction a eu la Palme d'Or et puis bah, là, c'était terminé.
D'accord. Et alors, le grand débat, violence, tout ça, est-ce que pour vous, Tarantino, c'est du cinéma violent ou c'est autre chose qui vous plaît dans son cinéma?
Alors, je trouve que Tarantino est fabuleux sur ses trois premiers films, The Reservoir Dogs, Pulp et Jackie Brown. Après, la réserve que j'ai sur toute sa filmographie depuis, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il a tendance à basculer dans le gore, alors que c'est comme si, voilà... on attendait de lui qu'il y ait ce passage un peu gore dans chacun de ses films. Je trouve que c'est un petit peu du remix à chaque fois et c'est dommage, peut-être pour les films suivants à partir de Kill Bill. Voilà.
Bon, alors on va jouer maintenant. Damien, vous allez devoir répondre à trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Prêt ?
Ouais.
C'est parti ! Si je vous donne le nombre 25, est-ce que cela correspond, réponse A, à l'âge auquel Quentin Tarantino a quitté le Video Store dans lequel il travaillait, réponse B, le jour de son anniversaire au mois de mars, ou réponse C, le chapitre de la Bible qui est lu par Samuel Lee Jackson, alias Jules Winfield, dans Pulp Fiction?
Ah, c'est... je dirais...
La...
Le premier, là.
L'âge auquel Quentin Tarantino a quitté le Video Store?
Ouais, allez, je me lance là-dessus.
Eh bien, Damien, c'est une mauvaise réponse.
Oh là là.
Oh, il va falloir chercher la clé.
J'ai envie de faire le père Fouras. Donc, mais il n'y a pas de problème, on peut encore faire appel à un joker.
Ouais, d'accord.
Alors, qui choisissez-vous?
Je vais choisir Yannick Rolando.
Yannick Rolando.
Moi, j'irai le 3.
25, est-ce que cela correspond à réponse E, le B, le jour de son anniversaire au mois de mars, ou réponse C, le chapitre de la Bible qui est lu par Samuel Lee Jackson?
Je crois que c'est le chapitre de la Bible.
Eh ben voilà, et hop, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Il s'agit précisément du texte 25 du livre d'Ézéchiel, verset 10. Question suivante, Damien. À quoi font référence les noms de code des tueuses dans Kill Bill? Et là, il n'y a pas de solution.
Il n'y a pas de solution.
Ah non. Par contre, je peux vous donner les noms, hein, mais Black Mamba.
Leur spécialité à chacune.
Ah, il faut penser.
Alors, leur talent particulier.
Ah, il faut penser. Il faut peut-être aller vers un autre genre qui truste.
Ah, aux serpents, à des noms de serpents.
Oui, des noms de serpents. Et dans une société. Fini.
De Yakuza.
Non, c'était pas ça, c'était tout simplement des références à des super-vilains de la Société des Serpents dans l'univers Marvel. Voilà, Black Mamba, Copperhead, Sidewinder et Cottonmouth, c'est les comics Marvel dont il s'est inspiré pour nommer ces tueuses dans Kill Bill. Alors allez,
d'accord.
On a encore une solution. À présent, on va vous faire écouter un son, un extrait, vous allez me dire à qui appartient cette voix.
It's a custom here in the South. Once a business deal is concluded that the two parties... shake hands. It implies good faith.
Alors, Damien, qui s'exprimait?
J'hésite.
Ah.
Peut-être DiCaprio?
Oui! Bonne réponse! Bonne réponse de Damien. Voilà. De toute façon, je vous sentais bien parti. Vous avez gagné le livre de Yannick Rolando, Quentin Tarantino ou Le Crépuscule de l'Image. Voilà. Donc, merci d'avoir participé à ce jeu, Damien.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Merci à Carole Millet-Liry, merci à Stéphane Moïsakis, Yannick Rolando et Jean-Baptiste Toussaint. Comme toujours, je le rappelle, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Quentin Tarantino, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag BlockbusterFI. On se retrouve demain pour parler complot, garde du corps et de chanteuse à voix qui chante très 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 fort. Demain, on parle de Whitney Houston. Et après le journal, elle a une voix elle aussi, mais quelle voix, Nadia Dame avec le débat de midi.